On va passer aux questions. Vomir rompt-il le jeûne?
Vomir, il y a deux cas. Soit il vomit de manière involontaire, soit alors il vomit de manière volontaire. Et si de manière involontaire, il ne rattrape rien du tout, le prophète, alayhi salatu wassalam, dans son âme, je me rappelle bien, il dit من ضاعه القيء فليس عليه القضاء ومن استقى فليقضي. Celui qui le provoque volontairement, qu'il récupère son jeûne. Donc, si c'est involontaire, la chaîne est allée, il ne doit rien rattraper. Si c'est volontaire, il doit rattraper.
La femme qui allait doit-elle jeûner ou peut-elle ne pas jeûner?
Là aussi, pour la femme qui allait, si elle craint pour elle ou pour son enfant, qu'elle n'a pas les forces d'allaiter son enfant, elle a le droit de ne pas jeûner. C'est un droit que le prophète Hassan lui a donné. Et si elle mange ces jours du Ramadan pendant qu'elle allait son enfant, on rapporte de Abdullah ibn Omar par Daraqutni qu'il avait une fille mariée qui était enceinte, et un jour elle avait soif alors qu'elle était en état de jeûne. Abdullah ibn Omar lui a donné à boire, il lui a dit tu peux boire et tu ne rattrapes pas, tu ne récupères pas ce jour-là, mais tu donnes à manger à un pauvre à la place pour la femme qui est enceinte. Ibn Abbas a parlé de la femme qui est enceinte et de la femme qui allait son enfant en disant dans Sunan al-Bayhaqi, en disant que la femme enceinte, bien la femme qui allait son enfant, elle peut manger et elle donne à manger pour chaque jour à un pauvre. Et ceci est rapporté de ses deux compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si elle est capable, elle se voit capable de faire le jeûne, si elle veut, elle le fait.
Est-ce que c'est vrai que les gens qui boivent de l'alcool doivent arrêter longtemps avant le premier jour de Ramadan?
Bismillah, alhamdulillah. Est-ce que les gens donc qui boivent de l'alcool doivent arrêter longtemps avant le mois de Ramadan? C'est-à-dire que ils doivent arrêter dès maintenant. Il n'y a pas de temps pour arrêter, ils doivent arrêter dès maintenant. Il y a tout ce qui est muharram, ce qui incombe à la personne, ce qui est obligatoire, c'est qu'il arrête directement parmi shurut al-tawba, al-iqla'u, an-izam, le fait de se retirer directement donc du péché. Peut-être que la personne donc ici fait référence, et il y a un hadith authentique dans Sunan Abi Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui boit l'alcool, je ne me rappelle plus exactement si ce sont ses actions ou ses prières ne sont pas acceptées pendant 40 jours, tout comme celui qui va avoir un devin. Donc ses prières, tout aussi celui qui a bu l'alcool, ici il faut revoir, ses prières ou ses actions ne sont pas acceptées pendant 40 jours. Maintenant, ce n'est pas pour ça, et ça c'est une erreur que, comme font beaucoup de gens, ils croient que parce qu'ils ont bu par exemple, l'alcool deux jours avant Ramadan, ils ne jeûnent pas parce qu'ils se disent ça sert à rien, ça ne sera pas accepté. Non. Toi, jeûne, fais ce qui t'est obligatoire. Ce n'est pas parce que tu as commis un péché, en plus que tu commets un péché qui est encore plus immense, qui est le fait de ne pas mettre en pratique un des cinq piliers de l'islam, de ne pas jeûner. Donc tu jeûnes et l'acceptation des actions, yani, c'est Allah Zawajal qui en est le juge. Mais on dit à la personne de prendre justement Ramadan comme tremplin pour arrêter l'alcool et d'arrêter directement maintenant s'il le peut. Mais de ne pas se dire, voilà, j'arrête maintenant un petit temps avant Ramadan, je fais mon jeûne et après ça je recommence. Non, il arrête dès maintenant pour ne plus recommencer et qu'Allah Zawajal l'aide.
Le fait d'embrasser sa femme sur la joue ou sur la bouche est-il permis durant le jeûne? Que veut dire par embrasser sa femme?
En tout cas, le fait d'embrasser sa femme, c'est permis pendant le Ramadan. Avec ou sans jouissance, c'est permis. Mais c'est déconseillé pour le jeûne, si c'est avec jouissance, c'est déconseillé pour ne pas aller plus loin et tomber dans ce qui annule le jeûne, c'est les rapports. Donc embrasser, c'est permis. Que ce soit sur la bouche ou sur les joues, c'est permis.
Lorsqu'on rompt le jeûne, alors est-ce qu'il faut une invocation spécifique ou alors deux rakat?
D'ailleurs, l'invocation, c'est la suivante. ذهب الظماء وابتلت العروق وتبتل الأجر إن شاء الله. Donc الظماء c'est la soif, elle est partie. وابتلت العروق et les veines sont humectées. وتبتل الأجر إن شاء الله. Donc on demande à Allah عز وجل que la récompense soit écrite et acceptée. Il n'y a pas de rakat à faire que je sache que le prophète nous aurait demandé de faire après avoir rompu le jeûne.
Question sur niya, comment faire? Donc le dire dans sa tête, à voix haute, ou l'intention dans le cœur?
Bismillah. Niya à voix haute, ça, il n'y a pas de doute, et les savants sont unanimes là-dessus, que niya à voix haute, c'est une innovation, blâmable, comme toutes les innovations. Et donc, que ce soit lors de la prière, avant la prière, des gens qui disent voilà je vais prier Salat al-Maghrib, ou pendant le jeûne ils disent je vais jeûner à haute voix le jeûne du Ramadan obligatoire de telle heure à telle heure, de... tout ça, yani, ce sont des innovations. Il n'y a rien de tout ça. La personne toujours niya mahalluha al-qalb. Donc l'endroit de la niya, c'est l'intérieur de la personne, le cœur, et il fixe entre lui Allah Azza wa Jal. Le fait qu'il va jeûner un jeûne obligatoire, c'est tout. Il ne faut pas non plus même se dire voilà, je vais jeûner le jeûne du mois. Non, la personne sait, durant la nuit, il se prépare, le fait quand tu vas au Sahara, que tu vas jeûner un jour du mois de Ramadan obligatoire. Pour différencier ce jeûne d'un jeûne surrogatoire, comme a dit la Khadid, parce que durant le jeûne surrogatoire, tu n'as pas besoin de délimiter ou de spécifier la niya avant le lever du soleil. Et c'est pour ça, pour faire la différence entre le jeûne obligatoire du mois de Ramadan et un jeûne surrogatoire quelconque, tu dois avoir cette intention bien précise, et un nid qui doit se faire donc dans le cœur, sans le prononcer, à voix basse ou à voix haute. Wallahu a'lam.
Question autour du siwak. Peut-on avaler le jus du siwak ou faut-il le recracher? Pourquoi doit-on utiliser le siwak avant les ablutions et alors le siwak parfumé, bon, il y a un goût. C'est comme le fluor.
La première question. La deuxième question qui est pourquoi on doit faire le siwak avant les ablutions? Bien, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Aïcha radiallahu anha, dans le musnad l'imam Ahmed et Sunan al-Nasa'i, Sunan al-Tirmidhi, a dit As-siwaku, matharatun lil-fam, mardatun lil-rab. Le siwak est une chose aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi est une purification pour la bouche. C'est pour cela que le prophète sallallahu aimait utiliser As-siwak. Il nous a recommandé, fortement recommandé, de faire siwak avant les ablutions, avant la prière, dès qu'on rentre à la maison, comme le faisait sallallahu alayhi wa sallam, quand on a demandé à Aïcha, quelle est la première chose que fait Rasoul sallam quand il rentre chez lui. Elle a dit, la première chose qu'il fait, c'est de faire siwak. Et aussi, à la lecture du Coran, il est conseillé de faire siwak. Chaque fois qu'on a une mauvaise haleine, on fait siwak. Et siwak, Rasoul sallam a voulu même le rendre obligatoire. Mais seulement ça rend la vie un peu, peut-être avec une certaine peine pour certains musulmans. Alors il est fortement recommandé de le faire. Il est aimé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça purifie la bouche. Ça donne une bonne haleine. Et le musulman, il est accompagné par les anges et par des anges autres que les deux anges qui inscrivent tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit. Il y a al-hafada, des anges, quand il sort de la maison, il dit des invocations, il a aussi les anges qui le protègent, etc. par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on sait très bien que les anges s'enfuient quand il y a une mauvaise odeur. Et comme a dit Rasoul sallam, inna al-mala'ika tata'adda mimma yata'adda minhu ibn Adam. Donc, d'ailleurs, celui qui mange de l'ail ou bien des oignons, il va pas à la mosquée, parce que ça nuit aux musulmans, et ça nuit aux anges aussi. Alors, quoi dire de la cigarette? La réponse est donnée par les frères. Normalement, le siwak qu'on utilise, il n'a pas de jus. Il n'a pas de jus. C'est un siwak, c'est un bâton qui n'a pas de jus. Si on l'avale, on avale de la salive. Et ça, il n'y a pas de problème. Mais la question suivante de siwak parfumé, je crois que c'est modèle 2000, siwak parfumé. Moi, en tout cas, j'ai jamais vu de siwak parfumé. Peut-être qu'il y en a, mais j'en connais pas. Si on a ajouté des choses, alors là, c'est clair, c'est interdit de l'avaler. Du siwak parfumé, c'est je ne sais pas quel modèle, en tout cas. S'il y a des choses ajoutées à ce siwak, eh bien, il est interdit d'avaler ce jus. Si c'est un siwak tout à fait normal, eh bien, c'est de la salive qu'on avale, c'est pas du jus.
La femme peut-elle se maquiller lorsqu'elle jeûne et qu'elle ne va pas sortir de chez elle?
Non, bien sûr.
Pour ce qui est de zakat Ramadan, à quel moment doit-on la donner et quelle est la somme?
En ce qui concerne zakat al-fitr, eh bien, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans les hadiths authentiques qu'il a rendu obligatoire pour chaque musulman de donner zakat al-fitr. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui donne zakat al-fitr avant la prière de l'Eid, donc, disons que à 7h du matin tu donnes zakat al-fitr, c'est avant la prière de l'Eid, l'Eid c'est à 7h30 par exemple, eh bien c'est une zakat qui est acceptée du moment qu'on n'a pas encore accompli la prière. Et celui qui la donne après la prière, eh bien c'est une simple sadaqa, une aumône qui t'a donné comme tu donnes la sadaqa à n'importe quel moment. Alors il faut la donner avant l'Eid. Et certains savants musulmans, ils ont été jusqu'à dire qu'on peut donner zakat avant Ramadan, que c'est permis, certains au début de Ramadan c'est permis, mais ce qui a rapporté des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tels que Abdullah ibn Umar, et c'est Abdullah ibn Umar, c'est un des rapporteurs du hadith concernant la zakat de l'fitr, et lui, comme disent les savants, que celui qui rapporte le hadith, et en même temps, il fait des gestes conformément à ce hadith, ça veut dire que c'est lui qui connaît le mieux l'interprétation de ce texte qu'il a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah ibn Umar a permis et a permis de donner zakat un jour ou bien deux jours avant le jour de l'Eid. Donc on peut la donner déjà deux jours avant l'Eid. Pour la valeur de zakat al-fitr, eh bien autant du prophète sallallahu alayhi wa sallam donnait en général on donnait sa', la quantité d'un sa' de blé, etc. Un sa', eh bien c'est quatre fois ça. Quatre fois les deux poignées de nourriture, telle que le blé. Quatre fois, ça s'appelle sa'. Ça fait, selon la nourriture, selon le genre de nourriture, ça peut faire 1 kg 200, 1 kg 600, etc.
Est-ce que le jeûne est-il cassé si l'on ne prie pas?
C'est une alhamdulillah. Ici, bien sûr, d'un point de vue purement juridique, ça dépend de la position qu'on adopte vis-à-vis de la prière. Yani, à la kulihal, en regardant sans prendre de position, en voyant la situation ici, on dit aux jeunes, jeûnez. On dit aux jeunes de jeûner. Et Allah Zajel, en terminant le verset concernant le jeûne, il dit, la'allakum tattaqoun. Peut-être atteindrez-vous la piété. Donc, le jeûne est justement un des moyens, et c'est une occasion de reprendre avec la prière, de renouer les liens avec Allah Zajel, pour continuer après le Ramadan. Donc on encourage toute personne musulmane et toute personne donc lorsque le Ramadan est de jeûner et en même temps de reprendre la prière et de continuer après le mois de Ramadan parce que justement l'ambiance du Ramadan aide à reprendre la prière, c'est le moment propice comme on dit.
Wallah. Je vis quotidiennement avec une personne qui a un mauvais caractère et un mauvais comportement qui nourrit en moi de mauvais sentiments. Mon jeûne se voit-il atténué, diminué de valeur?
Là, je crois que le frère Ahmed a cité plein de textes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parlant et mettant en garde le musulman contre la médisance, contre le mauvais comportement, contre le mensonge, etc. Alors, le musulman doit éviter tout ce qui peut entacher son jeûne, son siyam. Et certainement, quelqu'un qui traduit les mauvais sentiments en actes, ça diminue de sa récompense et ça lui fait gagner des péchés. Comme a dit Rasulullah, celui qui ne laisse pas le mensonge de côté et le fait de faire des faux témoignages, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nullement besoin de lui qui s'abstienne de manger et de boire. À quoi ça sert de s'abstenir de manger et de boire pendant tout le mois de Ramadan si, à côté de tout cela, on commet l'riba, la médisance, le mensonge, l'hasad, cette haine envers ses frères, l'épouse envers son mari, le mari envers son épouse, ce mauvais comportement à la maison entre les deux époux, tout ça, ça peut diminuer, ou bien ça peut diminuer la récompense, certainement ça diminue la récompense du jeûne, et ça aussi, ça fait aggraver les hasanats, les sayyiat, les péchés, et ça peut aller d'un petit péché à un autre petit péché jusqu'à aller peut-être vers un grand péché. Et là, il y a une question aussi posée à ce sujet, c'est quoi le grand péché et le petit péché? Eh bien, les grands péchés, ce sont les péchés cités par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je m'excuse d'avoir fait cette sortie de l'autoroute E5 vers la question concernant les péchés. Alors, sallallahu alayhi wa sallam a cité les péchés, les grands péchés, en disant évitez les 7 grands péchés. Il a cité le sihr, la magie, le fait de prendre l'argent et les biens d'un orphelin sans son accord, le fait de tuer, commettre l'adultère, tuer quelqu'un sans droit, shirk billah, etc. Et parmi les grands péchés aussi, il y a, comme disent les savants, que tout péché qui est cité, suivi, ce soit dans le Coran ou bien dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par une menace qui est très très grave, comme la malédiction, Oulaika alayhim la'natullah, la malédiction, l'enfer, le châtiment douloureux, etc. Ils disent que ça veut dire que c'est un grand péché. Autre c'est un grand péché, les autres sont des petits péchés.
Un jeune qui a atteint la puberté depuis des années, mais qui n'a jamais jeûné, pour cause d'ignorance ou de négligence, comment peut-il y remédier?
La cause d'ignorance ou la négligence, ça n'a pas d'importance. Le fait est là. Donc c'est des dettes envers Allah Azza wa Jal, des dettes desquelles il doit s'acquitter au plus tôt. Seulement, il doit s'en acquitter, mais aussi il doit faire la tawba, se repentir sincèrement, avec toutes les conditions du repentir. Donc, un, le repentir sincère envers Allah Azza wa Jal, et deux, récupérer les jours qu'il a mangés. Au cas où, comme certains le disent souvent, il ne connaît plus la quantité de jours qu'il a mangé, qu'il estime qu'il fasse une estimation. Et pourquoi pas essayer de prendre aussi une marge comme sécurité. Donc, at-tawba et la récupération. La question c'est quand il doit rattraper le plus tôt possible avant de mourir. Avant de mourir, parce qu'on ne sait pas quand la mort elle vient. Non.
Si on rate un jour de jeûne durant un voyage ou une maladie, doit-on d'abord rattraper ce jour avant les 6 jours de Shawwal?
Celui qui a raté ou celle qui a raté un jour de Ramadan ou plus, avant de faire les 6 jours de Shawwal, il fait ce qu'il doit récupérer et puis il fait les jours de Shawwal. Il ne fait pas les deux en même temps. Donc, il ne va pas faire niya les 6 pour récupérer pour les 6 jours de Shawwal. C'est d'abord, même s'il est permis de faire cette niya, mais ce qui compte c'est le farida d'abord. Il fait le farida, ce qu'il doit récupérer. Et là, il faut faire la différence entre quelqu'un qui a mangé pendant le jour de Ramadan volontairement, sans aucune excuse. Celui-là, il doit faire tawba, comme a dit le frère Ahmed, et aussi récupérer, comme a dit beaucoup de savants, sauf Cheikh Issaïmiya, qui a dit que ne récupère pas, comme pour la prière, il a dit qu'il doit faire tawba. Et pour quelqu'un qui a mangé pour des raisons valables islamiquement, il les rattrape, et ce n'est pas une condition de les rattraper successivement, comme pour le jeûne du Ramadan, il peut le faire séparément, comme a dit Abdullah ibn Abbas, il peut le faire séparément, insha'a taba' wa insha'a farraq, il peut le faire séparément, il a 4 jours à rattraper, à récupérer, il fait un jour, et puis 2, puis 1, ou bien les faire ensemble, mais en tout cas, il les fait avant Shawwal. Wallahu a'lam.
Juste un ajout par rapport à ce que le frère Adil a dit. La règle est la suivante. Une règle assez simple. Tout ce qui est obligatoire, tout ce qui est wajib, devant ce qui est mandoub, ce qui est sunna. Et donc j'applique cette règle-là. L'exercice est le suivant. Shawwal ou récupérer? Récupérer, c'est des dettes obligatoires. Shawwal est une sunna. De plus, Shawwal, ce n'est pas que 6 jours. Shawwal, c'est le nom d'un mois. Donc tu as encore tout le mois pour pouvoir faire tes 6 jours de sunnah. Fa innama al-fard, l'obligatoire, ça doit être au plus tôt.
Alors, comme Ahmed nous a bien expliqué de ne pas dormir après le Fajr, il y a un frère qui demande est-ce que la sieste alors est permise pendant Ramadan.
Si tu as étudié ta demi-page, tu peux dormir comme on a dit. La sieste n'est pas interdite. Le musulman ne doit pas prendre le mois de Ramadan comme un mois de sommeil. Sinon, son jeûne n'a pas grande valeur. Il ne faut pas qu'il dorme après la prière de Fajr, qu'il se réveille une demi-heure ou cinq minutes avant le Maghrib et dire Alhamdulillah, Allah Azzawajal accepte mon jeûne, etc. Il n'a rien jeûné du tout. Et donc, la sieste, elle est permise. Il peut être fatigué, il peut être un peu mal en point, etc., quitte à se reposer un petit peu et à reprendre ses forces. Mais que ça devienne une habitude systématique pour pouvoir, comme certains le disent, ne pas ressentir la faim et ne pas ressentir donc cette fatigue et la soif, etc., eh bien, l'individu, à ce moment-là, il n'est pas sincère envers Allah Azza wa Jal. Et il joue avec son adoration, et il joue avec sa récompense par rapport à ce jeûne, puisque la récompense, elle est relative par rapport à chacun d'entre nous. On ne jeûne pas tous de la même manière, et les intentions sont différentes. Donc c'est par rapport à l'effort que tu fournis, par rapport à ton intention, à ta sincérité, que tu es récompensé dans le jeûne. Tu peux dormir si tu es fatigué, s'il y a une raison valable, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas que ça devienne systématique pour pouvoir faire passer la faim ou la soif.
Dernière question, qu'est-ce qui annule le jeûne?
La première chose qui annule le jeûne, c'est manger, boire, 2, avoir des rapports, 3, vomir volontairement, 4, les lochis, les menstrues, 5, injection de nourriture, donc par une voix autre que la voix orale. Et pour ce qui est, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour celui qui a mangé et il a bu sans le faire volontairement, il est pardonné. Je crois que le frère Ahmed a déjà cité le hadith du prophète sallallahu alayhi
wa sallam. Wallahu alam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.